Radio de la Paix.
Reportage. La population africaine représente à peu près 20% de la population mondiale. Toutefois, cette population ne consomme que 3% de l'énergie globale produite. Et pourtant, le continent africain regorge de ressources naturelles inestimables qui restent peu exploitées. Les institutions internationales, telles que la Banque mondiale et la BAD, prévoient offrir l'électricité à plus de 300 millions de personnes d'ici à 2030. Entre-temps, des solutions durables émergent dans le but de faciliter la transition énergétique en Afrique. Ces initiatives, propulsées généralement par la jeunesse africaine, font tout de même face à des défis énormes. Transition énergétique et solutions innovantes en Afrique, c'est un grand reportage de Ghislain Koulibaly. Ce reportage est produit avec la participation de CFI, Agence française de développement média, dans le cadre du projet Terra Africa.
Sous des applaudissements bien nourris du public,
j'ai la joie et l'honneur de remettre le prix Challenge Up Afrique de la 8e édition à Divin Kouébatouka. Félicitations.
Vincent Fleury, directeur des environnements numériques à France Média Monde, annonce le lauréat de l'édition 2024. Il nous partage ici la vision de ce projet.
Cette année, la thématique porte sur le numérique au service des énergies vertes. En 10 ans, l'apport du solaire a été multiplié par 8 en Afrique. Mais on sait aussi que le continent ne compte qu'1% de la capacité photovoltaïque installée dans le monde. La demande en électricité devrait augmenter de 40 à 60% dans certaines régions du continent au cours des prochaines années. C'est donc un enjeu majeur à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs l'objectif de développement durable numéro 7 des Nations Unies. Je cite, « Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable ». Concrètement, le Challenge Up visait cette année à soutenir et stimuler la création de solutions utiles et innovantes visant à proposer de nouveaux modèles énergétiques durables.
Sur plus de 720 candidatures soumises, 3 ont été retenues pour la finale. Découvrons à présent quelques-unes de ces propositions innovantes, tout d'abord avec Jonathan Zungrana du Burkina Faso, qui nous présente la solution Kingwa, qui veut dire « vert » en langue morée. Kingwa a pour but de développer la première station de charge électrique au Burkina Faso à partir de l'énergie solaire.
Au Burkina Faso, suivant les données que nous avons, nous importons plus en énergie qu'en tout. Et le Burkina Faso importe autour de 12,6% en énergie. Un pays ne peut pas se développer sans énergie. Pour tous ceux qui connaissent le Burkina savent qu'en réalité, le soleil nous connaît. On a le soleil en fait à temps plein. Et on a besoin d'exploiter ce soleil-là pour en réalité faire la transition énergétique. Et donc, du coup, vu qu'on importe beaucoup plus en énergie, c'est-à-dire pétrole, gaz et électricité, et c'est plus pétrole et gaz, le projet vient en réalité permettre la transition énergétique en passant surtout par les bornes de recharge électrique et en favorisant en fait l'utilisation des engins électriques. Hormis les voitures électriques, il y a les vélomoteurs, les vélomoteurs qui sont déjà là présents au Burkina. La plupart des parents d'élèves en fait achètent des vélomoteurs pour les enfants, pour les lycées. Ça, c'est déjà très présent au Burkina. Mais en plus, vu qu'il y a une volonté politique de mettre en place une usine d'assemblage de voitures électriques et qu'il y a aussi un arrêté qui est mis en place pour la mise en place des bornes de recharge électrique au Burkina Faso et aussi un décret qui a été signé pour, en réalité, et des dates précises pour la mise en place de l'usine d'assemblage des voitures électriques et que même, en plus de cela, c'est notifié que tous les ministres doivent circuler avec ces voitures électriques. Il y a toute une économie qui est en train de se créer.
Mounir Jamaï a quant à lui mis en place Inner Counter, un réseau électrique intelligent adapté en zone rurale.
C'est un compteur que nous avons développé qui permet de compter l'énergie, un peu comme vous avez tous à la maison. L'appareil qui va permettre de compter, savoir combien vous devez payer à la fin du mois. Et on a aussi une intelligence artificielle qu'on a développée et qui permet d'apporter ce qu'on appelle des services énergétiques. Et parmi ces services énergétiques, donc on va avoir donc le fait de pouvoir visualiser ses consommations en temps réel, d'une part, mais aussi faire en sorte qu'on ait, comme si vous aviez un ingénieur énergéticien, embarqué dans votre installation électrique, notamment pour équiper les industriels et les bâtiments tertiaires. Et c'est comme ça qu'est né justement ce projet-là, avec la vocation de faire des économies d'énergie. Comme on dit, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc ce Inner Counter permet justement d'alerter sur les consommations anormales et donner des préconisations pour réduire ces consommations d'énergie. En deuxième phase, on a voulu attaquer un marché qui est énorme, c'est le marché de l'électrification rurale. C'est un marché de $350 milliards d'ici 2030 qui n'intéresse personne. Pourquoi justement ce marché n'intéresse personne? C'est des projets qui sont risqués parce que derrière on a des personnes qui sont parmi les moins bankable au monde, si on parle avec un langage financier, on va dire, et qui sont l'agriculteur africain, le villageois africain. Et ça, d'un point de vue des institutions, des bailleurs, c'est pas intéressant, c'est pas attractif. La cible principale, c'est dans les villages. Équiper chaque ménage de NR Counter, donc qui sera donc leur compteur un peu comme vous avez tous à la maison, équiper aussi la centrale photovoltaïque d'un autre compteur. Et à partir de là, on fait connecter l'ensemble de ces compteurs-là, et avec notre IA, on s'analyse les flux. Et par exemple, et on vient interconnecter par exemple notre NR Counter avec le système d'irrigation qu'il y a dans le périmètre maraîcher en général, qui est en périphérie du village. Ce périmètre maraîcher est équipé d'une autre technologie qu'on a développée, qui est le DakiFarm, et c'est un système qui vient irriguer les cultures en fonction des besoins des plantes. Connecté à une API météo, donc à la météorologie, permet d'économiser l'eau et d'irriguer les cultures quand on en a besoin.
Et parmi tous ces concepts innovants figure la Green Box de Divin Kwebatuka. Il s'agit de chambres froides conçues pour aider à réduire les pertes après les récoltes. Il nous en dit plus.
On est parti d'un problème présent au Congo et qui est même en Afrique, les pertes post-récolte. Si vous venez à Brazzaville et à Pointe-Noire, vous allez constater que dans les marchés, il y a des déchets qui se déversent. Et même au niveau des villages, des mamans, après la récolte, sont pressées à vendre des produits, alors qu'elles vendent ça à un prix relativement bas parce qu'elles ne savent pas là où conserver leurs produits. Au Congo, on est à 48%. Et en Afrique subsaharienne, on a 40% des pertes post-récolte. Et au niveau mondial, nous avons plus de 1,5 tonnes métriques de déchets chaque année. Ces déchets représentent 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et partout de ce constat, nous avons créé Green Box, qui est une chambre froide alimentée par l'énergie solaire qui permet de conserver les denrées alimentaires, qui sont des fruits, des légumes, et que les vaccins et certains médicaments qui ont besoin de maintenir une certaine température. Et nos green box, ce genre de chambres froides que nous mettons à la ferme, dans les zones rurales reculées, qui n'ont pas accès à l'énergie. Et ça permet aux agriculteurs de conserver leurs produits. Et dans cette même dimension, nous avons aussi installé les chambres froides au niveau des marchés. Ça permet que les mamans, auparavant, qui vendaient à la va-vite leurs produits, peuvent avoir un espace pour stocker leurs produits. Prenons ce constat, nous allons développer une infrastructure qui permet non seulement de stocker les produits, mais informer aussi les mamans et les détaillants des produits qu'ils ont stockés. Quel moment est idéal pour vendre leurs produits? Quel marché est favorable? Et à quel prix il faut vendre? Et nous récoltons des informations à travers nos chambres froides, et ce qui permet tout simplement de changer radicalement la vie de ces mamans-là qui auparavant perdaient pratiquement 40% de leur production et vendaient à des prix relativement bas leurs produits.
À la fois communautaire et écologique, le projet de Divin Kwebatuka va même au-delà du Congo-Brazzaville et vient répondre à plusieurs besoins en Afrique. Jeanne Richard, journaliste environnementaliste à RFI, est membre du jury.
C'est un projet qui est adapté au changement climatique. L'Afrique ne manque pas de talent, ne manque pas d'idées, ne manque pas de créativité, mais peut-être d'un coup de pouce plutôt. Justement, c'est l'objectif de ce concours, de ce Challenge Up Afrique, c'est de révéler un petit peu ces pépites. On a le vainqueur aujourd'hui, mais il y a tous les autres projets, notamment les trois finalistes, l'ensemble des trois finalistes. Tous les projets étaient intéressants et méritent d'avoir ce coup d'œil particulier. Il est primordial que ces enjeux de l'environnement, de la transition énergétique, écologique, fasse partie des programmes d'éducation en Afrique. Parce que c'est ce qui va permettre au continent de s'adapter à toutes ces catastrophes climatiques qui arrivent de plus en plus fortement. Et c'est aussi cette formation qui va permettre de développer ces idées encore plus fortement avec des projets qui permettront à l'Afrique d'être innovante. Comme le disait Antonio Guterres lors du dernier sommet du climat africain, le premier du genre, l'Afrique a tout le potentiel pour devenir championne. C'est peut-être le miracle économique africain, les énergies renouvelables.
Et l'autre prix majeur de ce Challenge App Afrique, c'est le coup de cœur énergie numérique, comme nous le précise la chef de délégation adjointe de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Martina Borovac.
Donc Nora Monet,
deuxième lauréate de ce concours, s'est penchée sur la contribution des langues locales ivoiriennes en vue de faciliter la compréhension des enjeux énergétiques en zone rurale. Son projet s'intitule GreenEd,
On a tous compris que la transition énergétique, elle est importante par rapport au changement climatique actuel et au déficit énergétique du continent africain. Il faut pouvoir se former pour pouvoir développer des compétences et puis faire la bonne transition vers l'énergie verte. D'où l'idée de pouvoir proposer des contenus de formation en langue locale pour permettre à toute cette population-là de pouvoir bénéficier de cours et de développer des compétences techniques dans ces domaines-là, dans la langue, à travers des contenus accessibles, audio, vidéo et jeux ludiques. Alors, nous voulons, avec cette application, développer des compétences techniques. Nous voulons vous apprendre à concevoir l'équipement pour fabriquer votre gaz, pour pouvoir cuisiner. Si tout de suite on vous dit la liste du matériel à acheter, ça peut décourager les moyens financiers. Par contre, grâce au digital, on peut vous mettre dans les conditions réelles. Vous avez les paramètres que vous devez contrôler. Tout ça, c'est dans votre langue. Donc, vous pouvez comprendre les enjeux. Vous pouvez comprendre ce qui se passe derrière. Vous pouvez même, on peut même simuler les règles de sécurité, les équipements à porter, etc. Et l'application peut, du coup, vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez bon dans la conception même de ce qu'on vous demandera de faire.
La transition énergétique en Afrique rencontre encore d'énormes défis, parmi lesquels on peut citer les questions de formation, mais surtout les financements de projets. Stéphane Madou, responsable équipe projet énergie à l'AFD, Agence française de développement.
La situation n'est absolument pas reluisante au niveau, en tout cas, de l'amorce de la transition énergétique au niveau de l'Afrique. Et cela s'explique par différents éléments. Un des premiers éléments, c'est d'abord la disponibilité même de la technologie au niveau de l'Afrique. Très clairement, aujourd'hui, nous constatons tous qu'on a des ressources en Afrique en matière d'hydroélectricité, en matière d'éolien, en matière de solaire, mais la technologie n'est pas développée sur place. L'hydroélectricité, c'est une énergie, on va dire, ancienne, développée depuis longtemps sur le continent, mais en ce qui concerne l'éolien et le solaire, ce ne sont pas des énergies nouvelles, très clairement, mais la technologie n'est pas présente sur place. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est aussi, on va dire, le renforcement des capacités au niveau local. Là aussi, très clairement, il faut former, de sorte à ce que ces énergies puissent être utilisées à bon escient, on dira, de manière efficace. Il y a un des défis évidents qui est celui relatif au financement des projets. Les projets sont pas très matures, les projets sont pas très bancables, et même quand ils sont bancables, il est assez difficile pour les Africains parce que il y a une perception du risque qui est assez, on va dire, erronée au niveau des bailleurs de fonds au niveau mondial, hein, très clairement. Et puis, bien évidemment, on a aussi la situation politique qui ne favorise pas la mise en œuvre des projets. Les instabilités par-ci et par-là, forcément, n'entraînent pas une volonté manifeste des opérateurs, des industriels à s'engager dans ce domaine-là qui est un domaine de temps long.
À tout cela, il faudrait ajouter les réalités climatiques et pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un signal d'alarme, nous dit le rapport national sur le climat et le développement CCDR, publié en novembre 2023 par la Banque mondiale. En effet, d'ici 2050, les impacts climatiques pourraient faire baisser le PIB réel jusqu'à 13% et faire basculer 1,63 million de personnes dans la pauvreté. Pour ce faire, il faut passer immédiatement à l'action de façon décisive pour s'attaquer au changement climatique tout en promouvant un développement durable. Jacques Assaoré-Conan, ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.
Le passage à la transition écologique nous impose de relever un certain nombre de défis, dont le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, la durabilité dans les transports, avec l'introduction de véhicules électriques et la promotion du transport de masse, la durabilité de l'agriculture pour préserver les terres, la biodiversité et les forêts en adoptant de bonnes pratiques culturelles comme l'agroforesterie et en restaurant nos mangroves dont on connaît le rôle important qu'elles jouent en matière de séquestration de carbone, de lutte contre l'érosion côtière et de reproduction des espèces aquatiques. La gestion rationnelle des ressources en eau ainsi que des déchets à travers l'adoption d'une stratégie d'économie circulaire, le développement et le transfert de technologies innovantes au service de l'action climatique. Tout ceci conditionné par une mobilisation accrue des ressources financières et une gouvernance climatique cohérente et efficace. Ensemble, nous devons trouver de nouveaux équilibres et une nouvelle façon de produire, de commercialiser, de consommer, de travailler et de choisir de nouveaux schémas qui impactent moins l'environnement.
Et une bonne synergie entre la transition énergétique et numérique pourrait aider considérablement au développement des solutions durables. Rokia Fofana, directrice de cabinet adjoint au ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation.
Le gouvernement ivoirien a adopté des mesures législatives fortes visant à favoriser l'essor de l'écosystème entrepreneurial. Je veux citer donc la loi sur les startups, également connue sous le nom de Startup Act, qui a été promulguée à la fin de l'année 2023. Son objectif étant donc de créer un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine du numérique.
La Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici à 2030.
Transition énergétique et solutions innovantes en Afrique, c'était un grand reportage de Ghislain Koulibaly. Ce reportage est produit avec la participation de CFI, Agence française de développement média, dans le cadre du projet Terra Africa.
C'était Reportage.
Radio de la paix.